إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا وبياكم. En soirée du samedi, Safar. Samedi, deux Safar. Chez moi, c'est écrit deux Safar. 1434 de l'Hégire. Allah Ta'ala avec le 15 décembre 2012. Nous sommes toujours, Inch'Allah Ta'ala, avec la foi en le dernier jour. La foi en le dernier jour. Ici, l'auteur, Rahimahullah, a dit. Ici, l'auteur, Rahimahullah, a dit. Ce dont on doit croire qu'il y a Yom Kiyama, et yani la chose en laquelle on doit croire et qui existe et qui existera et qui aura lieu et qui aura lieu le jour de la résurrection et qui rentre aussi dans la foi en le dernier jour, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que notre Seigneur, exalté soit-il, va juger ses créatures, va juger ses créatures. C'est-à-dire, il va donc, ce qu'il y a Yom Qiyama, ce qu'il y a Yom Qiyama, c'est qu'on doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala va quoi? Va juger ses créatures, et donc, les créatures doivent rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Rahimahullah dit المحاسبة هي اطلاع العباد أو عباد على أعمالهم يوم القيامة. Le Cheikh dit, رحمه الله, il a dit, le fait de juger, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala va montrer à ses serviteurs toutes leurs œuvres. Non, ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal. Ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal. Le Cheikh Rahimallah dit, et ça a été prouvé, et ça a été prouvé que Allah subhanahu wa ta'ala va juger ses créatures, ça a été prouvé par le Coran, la Sunna, le consensus, et même par la logique et la raison. Et maintenant il va donner les preuves du Coran, ensuite de la Sunna, ensuite du consensus, l'unanimité, ensuite de la raison et la logique, que va y avoir un jugement, que Allah Ta'ala va juger ses créatures yom al-qiyama. Premièrement, on va commencer par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Allah Ta'ala dit dans le Coran, celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Donc, vous remarquez avec moi dans le verset, lorsque Allah Ta'ala a dit, sera soumis à un jugement facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'il y a jugement ce jour-là. Et ça veut dire deux choses aussi. Ça veut dire qu'il y a jugement facile et qu'il y a jugement difficile. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire qu'on soit de ceux qui auront un jugement facile. Ensuite, il a dit, et celui qui sera soumis à un jugement facile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner réjoui auprès de sa famille. Il va retourner réjoui auprès de sa famille. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. Regardons maintenant la deuxième catégorie. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, c'est-à-dire avec la main gauche, comme on a dit la fois passée, il invoquera la destruction sur lui-même, c'est-à-dire il fera des invocations contre lui-même. Naam, il va yani, s'insulter lui-même. Et résultat, il va brûler dans un feu ardent. Donc celui-là, comment qu'il était dans cette vie? Il était tout joyeux parmi les siens. Et il pensait que jamais il n'y aurait de résurrection. Vous voyez les deux grandes fautes. Être tout joyeux parmi les siens au lieu que être yani, pensif. Être pensif. Naam. Comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout le temps pensif. Et paraissait très triste. Paraissait très triste. Ce n'est pas une interdiction d'être joyeux parmi sa famille. Non. Ce n'est pas une interdiction. Mais joyeux pendant les moments de joie. Tandis que celui-là, qui va prendre le livre de la main gauche, tout le temps joyeux. Naam. Il n'avait pas le temps de penser à l'au-delà. Il ne cherchait qu'à boire, manger, dormir et yani, assouvir ses passions. C'est tout. C'est pour ça qu'il était très joyeux. Et en plus de cela, ce qui est plus grave, il ne pensait jamais qu'un jour il serait ressuscité. Donc, il ne croyait pas au jour de la résurrection et encore moins qu'il y aura un jugement. Qu'il y aura un jour où il y aura un jugement. Voyez. Ensuite, il y a aussi un autre verset qui prouve aussi qu'il y a jugement, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha. Le verset en arabe wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin wa kafa bina hasibin. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. L'âme, nous suffisons largement pour dresser les comptes. C'est pas la peine qu'il y ait un autre qui nous aide ou bien qui nous seconde. Nous suffisons. Allah Ta'ala dit, je suffis largement pour dresser les comptes sans jamais léser quelqu'un ou faire du tort à quelqu'un ou lui prendre une bonne œuvre qu'il a faite et ne pas la lui compter ou bien lui cacher une bonne œuvre ou jamais. Donc ceci c'est inchallah ta'ala les preuves du Coran que il y aura yani, le jour de la résurrection il y aura des comptes et qu'on doit des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala Quant à la sunna faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam بعدة أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق. Il a dit quant à la sunna, il a été prouvé par de différents et de divers ahadith authentiques que Allah subhanahu wa ta'ala jugera ses créatures le jour de la résurrection. On va citer ici un hadith lorsqu'il a dit par exemple أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك 2574 من صحيح الجامع. Quant aux hadith, il y en a beaucoup, on va citer celui-là par exemple. La première chose sur quoi se fera juger, le prophète Hassan m'a dit, la première chose sur quoi se fera juger l'homme le jour de la résurrection, parmi ses actions, est la prière. Fawzi, est-ce que vous voyez ce hadith? C'est la prière. Notre Seigneur dira aux anges, alors qu'il est tout à fait au courant, il va dire, regardez la prière de mon serviteur. L'a-t-il bien faite ou bien y a-t-il des manquements? S'il l'a bien faite, elle lui sera comptée entièrement. Et s'il y a des manquements, il dira aux anges, regarder si mon serviteur a des prières nafila, surérogatoires. S'il y en a des surérogatoires, il dira complétez pour mon serviteur les prières obligatoires par les prières surérogatoires. Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani 2574. Donc ça c'est une preuve que quoi? C'est une preuve que Allah Ta'ala va juger les gens yom al-Qiyamah. Va juger et demande quoi? Il demande qu'on lui rende des comptes. Et vous avez remarqué avec moi que la première des choses, la première avec laquelle va Allah subhanahu wa ta'ala commencer ses comptes, c'est de demander quoi? Demander s'il y avait la prière. Et bien sûr la prière obligatoire. La prière obligatoire. Donc ce jour-là, si la personne vient et rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec la prière obligatoire, déjà, alhamdoulilah, disons la moitié des problèmes va être repoussée. Mais si jamais elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans prière, ce sera vraiment grave. Ce sera vraiment grave. Et d'après la plupart des savants, ils disent bien sûr, celui qui ne prie pas, c'est un polythéiste, c'est un kafir. Al-Muhim. Maintenant, s'il y a la prière avec la personne, Allah Ta'ala va demander, regardez, est-ce que sa prière est manquante ou elle n'est pas manquante. Et comme vous savez que, sûrement, il n'y a pas une personne, à part les prophètes et les messagers, dont la prière n'est pas manquante. Il n'y a pas une personne, à part les prophètes et les messagers, dont la prière n'est pas manquante. Car dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne, seulement, quand elle est dans la prière, et elle se détourne avec les yeux seulement, pas la tête. Elle regarde juste comme ça, furtivement, très vite, un peu à droite ou un peu à gauche. Le prophète, alayhi sallam, a dit, « Huwakhtiles min shaitan » Il a dit, c'est un vol de Satan. Le shaitan vient te voler quelque chose de ta salat. Donc ici, il y a un manque. Tu vois, juste tu regardes avec tes yeux, juste un peu à droite, un peu à gauche. Au lieu de regarder en bas, là où tu fais le sujoud, et voilà que le shaitan vient de te prendre quelque chose, donc ta prière est manquante. Ajoutez à cela le hadith qui dit que, quand la personne commence à prier, que elle sort de sa salat et des fois elle n'a que le un tiers, le un quart, le un cinquième, un sixième et des fois la moitié. Elle n'a que cela. Pourquoi? Cela dépend de, yani, est-ce que son cœur était présent dans la salat ou pas. À chaque fois que ton cœur et ton esprit est présent dans la salat, il y a ce qu'on appelle khushua. Ça veut dire ta prière est acceptée. À chaque fois que ton esprit va, disons, vaguer, il va à droite et à gauche, et il va se promener, et à chaque fois que tu fais comme ça, à chaque fois que ça arrête de marquer la prière, ça s'arrête, nam, jusqu'à ce que tu reviennes à penser à la salat pour que les hasanat commencent à se marquer. Donc, la personne, quand elle vient comme ça devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une solution laquelle Allah ta'ala va dire, regardez si mon serviteur a des prières surérogatoires. Donc, je dis, je redis, malheur à celui qui va mourir et qui ne faisait pas des prières surérogatoires. Malheur à lui. Car c'est sûr que sa prière obligatoire sera manquante. On vient de le dire, c'est sûr. Non. Jamais, Yanni, dans ta salat, tu n'as pensé à tes enfants, ou à ta femme, ou à ta voiture, ou à ton travail, ou à ton directeur, ou à un match de football, ou bien à un film. Jamais. Tu as sûrement pensé au moins une fois. À chaque fois que tu penses à ça, ça s'arrête. Donc, il y a un manque. Donc, imaginez combien qu'on a de manque dans nos salats. Donc je dis, alhamdoulilah, que yani, la personne fasse des nafilas. Car s'il n'y a pas de nafilas, ce sera grave. Allah Ta'ala va dire, cherchez-lui donc comment lui réparer avec la nafila, ils ne vont pas trouver. Et c'est dommage que beaucoup de musulmans, si ce n'est pas des millions, je ne dis pas des centaines, des milliers, si ce n'est pas, il y en a des millions qui se suffisent seulement à, yani, aux saintes prières, صبح ظهر عصر مغرب عشاء. Il te dit, moi ça suffit, j'ai fait l'obligatoire. Je ne suis pas obligé de faire la nafila. Et bien sûr, ne dis comme ça, ne dis comme ça qu'une personne qui croit, qui n'a pas bien médité sur son sort et ce qui va lui arriver yom al-qiyam. Car si elle sait ce qu'on vient de dire maintenant, sûrement que elle va faire tous ses efforts pour faire quoi? Des nafila. Car elle sait que sa prière sera manquante, obligée, obligée. Al-Muhim. Ensuite, il a dit, ensuite le Cheikh a dit, ça c'est par rapport à la Sunna. À la Sunna, qu'il y aura quoi? Qu'il y aura jugement. Ensuite, l'Ijma, par rapport au consensus, le Cheikh dit, فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلِهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ. Il a dit, il y a un consensus dans la communauté. أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى يُحَاسِبُ الْخَلَائِقِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un consensus dans la communauté que Allah subhanahu wa ta'ala va juger ses créatures. Va juger ses créatures. Amma al-aql, quant à la raison et la logique. Fawadih, il a dit c'est clair. لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا. والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه. Il a dit quant à la preuve de la raison. Il a dit, c'est clair et c'est logique. C'est quoi? Il a dit, car il nous a été ordonné de faire des choses et de délaisser des choses et de croire en des choses. Il a dit comme ça. Il nous a été ordonné de faire des choses, comme la salat, la zakat, le hajj, de délaisser des choses, l'usure, l'alcool, la drogue, ceci, de croire en des choses, de croire en Mohammed Aslam, de croire au jour dernier, de croire à la balance, de croire au paradis, de croire à ceci, cela, il a dit, alors la logique veut que, si maintenant on nous demande de faire des choses, de délaisser des choses, et de croire en des choses, la logique veut que on sera jugé sur cette chose pour être ou bien récompensé, ou bien yani rétribué en bien, ou bien rétribué en mal. C'est comme ça la logique. Sinon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de faire des choses et de délaisser des choses. Pourquoi? Comme ça, sans aucun but. Ordonner pour ordonner. Non. Ça ne lui convient pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la logique veut que Yom Al-Qiyamah va nous demander des comptes. Naam. Il a dit, وَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ الْخَلَائِقِ جِمْعُ خَلِيقَ يَشْمَلُ كُلَّ مَخْلُوقٍ. Le Cheikh Rahimallah dit, dans le titre, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala allait demander des comptes, c'est-à-dire juger ses créatures. Il a dit ici, créatures, ça veut dire toutes les créatures. Toutes les créatures. Ensuite, il a dit, إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ. Ici, quand il a dit créatures, il veut dire, on va voir un peu plus bas, il veut dire, être humain et djinn. Il ne veut pas dire les animaux. Car les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala, ne leur a pas demandé yani, ce qu'il nous a demandé à nous. De faire la salat, d'aller au hajj, ceci, cela. Naam. Ça, les animaux font le tesbih, font une salat, etc. spéciale qu'on ne connaît pas nous. Mais ce n'est pas qu'ils font ça pour être récompensés. Ils font ça. Allah Ta'ala leur a imposé ça pour leur prouver que c'est lui qui les a créés. Ils ne le font pas par adoration, mais ils le font par nécessité, par contrainte. Naam. Al-Muhim, il a dit ici, donc Allah Ta'ala va juger les êtres humains et les djinns, Yom Al-Qiyamah. Il a dit, mais, il a dit, il y a exception. C'est-à-dire, il y a des êtres humains que Allah Ta'ala ne va pas juger. Il a dit qui? Il a dit man yadkhuluna al-jannata bila hisab al-'adab. Allah Ta'ala va juger tous les êtres humains et les djinns sauf, il a dit sauf ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment ni sans ayant de compte à rendre. Donc on comprend par là qu'il y a des gens qui vont rentrer directement au paradis sans être jugés et n'ayant pas de compte à rendre, masha'Allah. Il a dit ici, comme tabata fi sahihain, comme dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمته. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a vu sa communauté. ومعهم 70,000. Et avec eux 70,000. يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Et il a vu avec eux 70,000 qui vont rentrer qui vont rentrer au paradis, il a dit bila hisab, sans jugement wala adab, ni châtiment. Il a dit ce sont qui? Wa hum alladhina la yastarqun, ce sont ceux qui ne font pas, ne demandent pas la ruqya, wa la yaktawun, ni ne se brûlent avec les pointes de fer, wa la yatatayyarun, ni ceux qui font la superstition, wa ala rabbihim yatawakkalun, et ceux qui يعني, ceux qui mettent leur affaire dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont confiance en lui. Tayyib, ce hadith là, j'ai ici où je peux vous le lire avec un peu de détail, inshallah ta'ala. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah ta'ala soit satisfait de lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, on fit défiler devant moi les diverses communautés religieuses. Je vis alors un prophète passer, étant accompagné d'une petite troupe de fidèles, presque une dizaine. Il a dit un autre qui passait, ensuite j'ai vu un autre qui passait, tout en ayant en sa compagnie qu'un ou deux hommes. Ensuite j'ai vu un troisième prophète qui passait tout seul. Ensuite je vis une multitude de gens, et je crus qu'il s'agissait de ma communauté. Mais on me dit que c'était Moussa, Moïse alayhi salam, et son peuple. On me demanda ensuite de regarder une masse nombreuse qui barrait l'horizon. Regarde aussi de l'autre horizon, ajouta-t-on. J'y vis également une autre masse nombreuse. C'est alors qu'on me dit, voici ta communauté. Et il y aura en outre 70 000 qui entreront au paradis sans qu'on leur demande aucun compte et sans qu'ils ne subissent de châtiment. Sans leur demander aucun compte et sans qu'ils ne subissent de châtiment. Ceci dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et rentra chez lui. Alors les assistants se mirent à discuter au sujet de ceux qui entreront au paradis sans qu'on leur demande de compte et sans qu'ils subissent de châtiment. Ce sont qui les 70 000? Les sahaba ont commencé à parler entre eux, à diverger, chacun dans son avis. Quelques-uns dirent alors, peut-être s'agit-il des compagnons du prophète. Ce sont eux, peut-être, dont il est en train de parler. D'autres dirent, ce sont plutôt ceux qui naissent musulmans. Ceux qui naissent musulmans et n'ont jamais associé de divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint, sorti de sa chambre, revint et a pris le sujet de leur discussion. Il leur a dit, pourquoi vous éleviez la voix? Ils ont dit, on discutait sur les 70 000. Il dit, c'est-à-dire pour leur montrer, il a dit, ce sont ceux, il s'agit de ceux qui ne s'exorcisent pas et de ceux qui ne sont pas superstitieux et de ceux qui ne se brûlent pas avec des pointes de fer, et de ceux qui mettent toute leur confiance en leur Seigneur. Alors un sahabi qui s'appelle Ukash ibn Mihsan se leva alors et dit, ô envoyé d'Allah, invoque Allah pour que je sois l'un d'eux. Alors le prophète Hassan lui répondit, tu le seras. Alors un autre musulman se leva et demanda la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-ci lui répondit, tu as été devancé par Rukasha. Rukasha, celui qui vient de se lever maintenant, t'a devancé. Hadith se trouve dans le Bukhari, 5270 et Muslim, 323. Rukasha ibn Muhsin, naam. Donc, dans ce hadith, Rukasha, quand le prophète Hassan m'a expliqué qui sont les... Là, il a dit, Ya Rasulallah, faites-moi des doigts pour que je fasse partie d'eux. Donc, Rukasha, il dit, tu feras partie d'eux. Donc, Rukasha, radiallahu ta'ala anhu, et parmi les là et là, des 70 000 qui vont rentrer, subhanallah ta'ala, au paradis, sans quoi? Sans rendre de compte. Sans rendre de compte, Allah subhanahu wa ta'ala, et sans être jugé, et encore moins, sans être, yani, châtié. Et de là, vous remarquez aussi l'avantage de celui qui quoi? De celui qui encourt, ou la concourt, ou bien court, dans quoi? Yani dans le fait de vouloir faire le bien. Vous voyez, Oukacha, dès que le prophète a terminé de parler, il a sauté sur l'occasion. Il a dit à Rasoulallah, faites de sorte que je sois parmi eux. Il a dit, tu es parmi eux. Ensuite, le deuxième a voulu faire comme lui, il lui a dit, c'est trop tard. Oukacha t'a devancé. Oukacha t'a devancé. Au point où cette phrase est devenue célèbre chez les salafs. Chez les salafs. Quand tu vas demander quelque chose, on te dit, Oukacha t'a devancé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui t'a précédé, qui a appris la chose. Oukacha t'a devancé. Donc, vous voyez l'avantage de celui qui concourt, yani, vers les biens. Non, ce n'est pas comme celui qui tarde et retarde. Seulement une personne t'a devancé, c'est trop tard. Tu es deuxième, tu ne prends rien. Seulement le premier a pris cette grande faveur de rentrer Yom Al-Qiyamah directement au paradis, alors que les autres vont passer par le jugement. Montre-moi ce que tu as fait, montre-moi combien tu as jeûné, montre-moi pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela, pourquoi tu as dit ceci, pourquoi cela. El-Muhim, ça n'en finit pas. Mais les autres, non, directement au paradis. El-Muhim. Dans ce hadith, 70 000 vont rentrer au paradis sans jugement, 70 000. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed, ou Alhamdoulilah, que chaque personne de ces 70 000, avec chaque personne de ces 70 000, il y aura 70 000 autres. Chaque personne de ces 70 000 qui va rentrer au paradis directement, il y aura avec elle, avec chaque personne, il y aura 70 000 autres. Ce qui fait, si on va faire un calcul, que les gens qui vont rentrer Yom al-Qiyamah directement au paradis, sans jugement ni calcul, leur nombre sera de 4 milliards 970 000. 4 milliards 970 000. Ça, c'est mon calcul, là. 70 000 par 70 000 par 70 000. Chaque personne aura 70 000 avec elle. Et le hadith a dit, il a dit, et encore 70 000 autres. C'est-à-dire, je répète, il y a 70 000 qui vont entrer au paradis. Si vous voulez faire les calculs, faites. J'ai toujours été faible en mathématiques. Donc, autrefois, je croyais que 1 plus 3, 1 plus 1, ça faisait 3. Ensuite, on m'a dit non, ça fait 2. El-Mouhim. Je dis 70 000. Non. Donc, il y a 70 000. Il y a 70 000. Et chaque personne des 70 000 va faire entrer 70 000 autres avec elle, plus il y a 70 000 autres. Plus il y a 70 000 autres. Comme ça dit le hadith. Moi j'ai trouvé 4 milliards 970 000. Si vous avez la calculatrice, confirmez-moi le calcul ou bien infirmez-le. 4 milliards 970 000. C'est bien ça. Alhamdoulilah. Ensuite, quand le hadith a dit, quand le cheikh a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait juger les créatures. Le cheikh dit, ça rentre aussi les djinns. Ça rentre aussi les djinns. Pourquoi? Il a dit, les mukallafun, car les djinns ont aussi des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns ont des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Quand vous savez que le djinn, yani, d'après la plupart des savants des salafs, ils disent que eux aussi, ils doivent faire la salat, la zakat, aller au hajj, c'est-à-dire les grands piliers. Mais il y a divergence dans les petits piliers, dans les petites, pas dans les grands, pas dans les piliers, dans les autres choses à part les piliers, il y a différence entre les savants. Mais les cinq piliers qui doivent prier, etc. Là, les savants des salaf, la plupart disent les djinns, yani, ont des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, vous savez que, par exemple, dans la mosquée, par exemple, ils disent que on ne doit pas prier, on ne doit pas prier entre deux piliers. Vous savez ça? On ne prie pas dans la mosquée entre deux piliers. Certains savants ont dit, la hikma, Wallahu alam, à part que, car le rang n'est pas complet, il est coupé, ils ont dit, certains ont dit, il y a une autre hikma, c'est que pour laisser la place aux djinns pour prier là-bas, c'est le rang. C'est le rang des djinns pour prier là-bas. Certains ont dit comme ça. Ce qui prouve que, donc, eux aussi, yani, ils font la prière et certains viennent à la mosquée comme ça. Al-Muhim. Le cheikh dit, Walihada, yadkhulu kafiruhum an-nara bin-nass wal-ijma'. Il a dit, c'est pour cela que celui qui mécroit, celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les djinns, il va rentrer en enfer, hein, avec la preuve du Coran, de la Sunna et du consensus. Il va rentrer en enfer avec la preuve du Coran, de la Sunna et du consensus. On va citer le Coran ici. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. من الجن والإنس في النار. Allah Ta'ala va dire يوم القيامة, entrez dans le feu parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédé. Entrez dans le feu parmi qui? Parmi les djinns qui sont déjà au feu et les hommes qui sont déjà au feu des autres communautés qui vous ont précédé. Donc les djinns, pourquoi ils sont au feu? Ceux-là, dans le verset. Pourquoi ils sont rentrés au feu? Est-ce que Allah Ta'ala leur a fait du tort? Non. Parce que seulement, ils n'ont pas fait l'obligatoire. Non, ils n'ont pas fait l'obligatoire. Ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور العلماء وهو الصحيح et le cheikh رحمه الله dit et comme les djinns certains ou alors rentreront en enfer les djinns qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aussi les djinns qui ont été croyants vont rentrer au paradis d'après l'avis le plus fort dit cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله il a dit les djinns qui étaient croyants ils vont rentrer au paradis d'après l'avis le plus fort des savants bi-idhnillahi ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jann. Allah ta'ala, en parlant du paradis, il a dit les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, ils y trouveront les houris, les femmes, au regard chaste. Houris, ça veut dire elle a de grands yeux noirs. La beauté du paradis, c'est pas les yeux bleus, les yeux verts, leurs yeux noirs. Au regard chaste, qu'aucun homme avant eux ou djinn n'aura défloré. Donc je répète, où est-ce qu'il est le témoin du cours que les djinns seront au paradis? La preuve, les gens qui vont entrer trouveront des femmes au regard chaste qu'avant eux, aucun homme ou bien djinn n'aura touché. Donc ça se voit que les djinns, ces djinns-là, n'auront pas touché ces femmes où? Dans le paradis. Ce sont des femmes du paradis, des houris. Les houris n'ont jamais vécu sur terre. Directement créées au paradis. Et là-bas, les djinns qui sont avec eux, qui vont rentrer, ne peuvent pas les toucher. Donc, on prend quoi? On prend que les djinns rentreront au paradis, c'est-à-dire les croyants. Les croyants des djinns rentreront au paradis. Ensuite, là, hein? Ensuite, une autre question. Et maintenant, est-ce que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va juger ses créatures, on a vu qu'il va juger les êtres humains, qu'il va juger les djinns, ce qu'ils appellent les esprits, est-ce qu'il va juger aussi les bestiaux? Est-ce qu'il va juger aussi les bestiaux? Le cheikh dit, Amma al-qisas fa'ishmalu al-baha'im. Le cheikh dit, quant à la loi du talion, la loi du talion, c'est-à-dire, tu m'as crevé un œil, je te crève un œil. Tu m'as coupé une oreille, je te coupe une oreille. Tu m'as cassé ma main, je te casse ma main. Ça s'appelle en islam la loi du talion. Il a dit, quant à la loi du talion, la loi du talion va englober les bestiaux. Va englober les bestiaux. Car il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. car il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans le Sahih Muslim, que Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah va rendre justice au mouton qui n'a pas de corne, qui a été frappé, disons cogné à la tête, par un mouton cornu. Dans ce bas monde, vous avez remarqué, les moutons, par exemple, il y a le mouton qui a des cornes et il y a le mouton qui n'a pas de cornes. On parle de mouton, c'est-à-dire, comment qu'on dit, mâle, non. La femelle, comme vous savez, yani, n'a pas de cornes. Le cornu, il arrive que le cornu, de temps en temps, frappe avec sa tête un mouton qui n'a pas de cornes. Est-ce que ça rentre dans la justice? C'est injuste. Car frapper avec des cornes fait beaucoup plus mal que yani, quand on n'a pas de cornes. Celui-là, Yom al-Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va demander au mouton qui n'a pas de cornes, il va lui dire maintenant, c'est ton tour à toi de frapper le mouton cornu qui t'a frappé un jour dans la dunya. Pour prouver quoi? Et les gens, bien sûr, les êtres humains, sont en train de voir et de contempler. Yom al-Qiyama. Pourquoi? Pour que tu te dises, si maintenant, l'animal, subhanallah l'azim, qui n'a pas d'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à suivre, ni, yani, on dit de lui juste ou injuste. Si celui-là, Allah ta'ala va lui quoi? Va lui demander de rendre des comptes. Toi, le cornu, pourquoi tu as frappé celui qui n'avait pas les cornes? Donc aujourd'hui, tu vas payer. Allez, toi qui n'as pas le corne, frappe-le. Donc tu vas dire quoi? Tu vas dire, donc qu'en est-il maintenant quand yani va arriver notre tour? Comment qu'on va faire nous, les êtres humains, qui avions yani un esprit, avions une tête, avions un cerveau, avions la raison, avions ceci, et on a fait du mal. Donc, ce sera vraiment grave pour nous. Ce sera vraiment grave pour nous. Naam. Wa hada qisas. Li'anna la tuhasab hisab taklif. Li'anna al-bahaim laysa la thawra. Le cheikh dit ça rentre dans la loi du talion. Et non pas dans le fait de rendre des comptes pour être rétribué en bien ou bien rétribué en mal et aller au paradis ou en enfer. Il a dit non, ça c'est pas pour les bestiaux, pas pour les animaux. Ensuite le cheikh dit وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Le cheikh dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala sera seul yani avec qui? Avec sa créature, avec le croyant. Chaque croyant, Allah subhanahu wa ta'ala se mettra seul avec lui, seul, sans que les autres entendent ce que Allah ta'ala est en train de dire à ce croyant. Dans le langage normal de nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit tête à tête, ça. Tu dis à quelqu'un, viens, on fait un PV, un tête à tête, je vais dire quelque chose en tête à tête. Avec Allah ta'ala, on ne peut pas dire ça parce que Allah ta'ala n'a pas de tête, on ne va pas dire tête à tête. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Tu seras seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque croyant restera comme ça quelques moments seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala va te dicter tous les péchés que tu as fait. Non, va te dire que tel jour tu as fait telle chose, tel jour à telle heure tu as fait telle chose, et comme ça. Non. Il a dit, يَخْلُو بِهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ أَنْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va se mettre seul avec lui, sans que les autres, yani, ne sachent ce qu'il est en train de dire, ni ne le voient. وَيُقَرِّرُ بِذُنُوبِهِ. Et il va lui dire, عَمِلْتَ كَدَا, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tel jour, tel mois, telle année, à telle minute, dans tel endroit, dans tel... Comme ça, pour bien te rappeler. Le croyant, qu'est-ce qu'il va dire? Yuqir wa ya'tarif. Le croyant sera obligé de dire Na'am mon Seigneur. Na'am mon Seigneur. Na'am. Na'am, je reconnais. Je reconnais. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira, comme c'est dans un hadith authentique, Satartuha alayka fi dunya. Allah Ta'ala va te dire alors, va dire aux croyants, ces choses-là, je les ai cachées. Hein, je n'ai pas voulu les dévoiler dans la dunya, quand tu étais dans le bas monde. Wa ana akhfiruha lak al-yawm. Et aujourd'hui, je te pardonne cela. Ce que je viens de te dire, je n'ai pas voulu te dévoiler dans la dunya de ce que tu as fait. Et maintenant, yani, comment qu'on dit ça, yani, je pardonne. Maintenant, je te pardonne les péchés que tu as faits. Tayyib. Donc, quelle est la hikma? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va me faire rappeler mes péchés? Naam, pour te montrer quoi? Sa grande science, qu'il est omniscient, que ce n'est pas comme quelqu'un que tu peux duper et berner, et quelqu'un à lequel tu vas mentir. Naam, Allah ta'ala, non. Il va tout te rappeler avec les détails. Tu as fait ceci, cela, même les choses que tu as oubliées. Tu vas dire, subhanallah, subhanallah. Ce que tu vas dire dans ton cœur, Allahu Akbar, il sait tout. Allahu Akbar, rien ne lui échappe. Allahu Akbar, par détail. Alors que toi, tu as fait des choses, ça fait 30, 40 ans, 50 ans peut-être. Tu les as oubliées. Naam. Si Allah Ta'ala ne te fait pas comme ça, il va dire, va directement au paradis. Tu vas rentrer au paradis avec quoi? Avec fierté, avec orgueil. Eh, moi je suis masha'Allah. Eh, moi j'ai pas fait de faute moi. Moi je suis le plus pieux de la terre. Moi je suis le plus pur. Moi je suis masha'Allah, na'am. Je passais mes nuits à prier. Allah subhanahu wa ta'ala veut te faire reconnaître que tu étais vraiment faible, que tu étais vraiment dans la faute. Et que si c'était pas sa miséricorde, il t'aurait jeté en enfer. Il t'aurait jeté en enfer. Vu les grands péchés que tu as faits. Vu les grands péchés que tu as faits. وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَضَعُ عَلَيْكَ سِتْرَهُ. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va te parler ainsi, il va mettre son voile sur toi. Son voile. Personne ne voit, personne n'entend. Alors que, il aurait pu faire ça devant tout le monde. Naam, il aurait pu faire ça devant tout le monde qui t'entend, tout le monde qui te voit, ton père, ta mère, ta famille, tout le monde, les voisins, tous ils sont debout, il te dit, tu as fait tel jour ceci, tu as fait cela. Naam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non. Arhamur Rahimin, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Naam. Surtout, ceux qui ont fait des péchés, quoi, et yani, ont regretté, se sont repentis et ont fait ça en cachette. Et c'est pas le genre de gens qui font les péchés, ils vont raconter. Ils sont fiers et ils racontent. Hier, j'ai bu jusqu'au lever du soleil. J'ai pas arrêté de boire. Non, j'ai dansé jusqu'à je ne sais pas quoi. Commence à raconter les péchés qu'il a fait. Non, cela non. Cela non. Ensuite, il dit Bihaytu la yara ahad. Allah Ta'ala met sur toi son voile sur le croyant de façon à ce que personne ne le voit. Wala isma wahad, et de façon à ce que personne n'entende le dialogue qu'il y a entre Allah subhanahu wa ta'ala et toi. Wahada min fadlillah azza wa jalla al-mu'min. Et ça rentre dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le croyant. Ça rentre dans la faveur, les grandes faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le croyant. Fa inna al-insan idha qarraraka bi jinayatik. Naam. Amam an-nas وإن سمح لك ففيه شيء من فضيحة. Il a dit, si une personne, par exemple, personne va te reprocher tes fautes devant les gens. Regardez, si une personne va te reprocher tes fautes devant les gens. Elle va dire, Naam, c'est toi qui m'as volé les 100 euros la fois passée, ceci, cela. Naam. Ensuite, il va dire, je t'ai pardonné. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Car ça devient un scandale. C'est un scandale. Naam. Comme ça, devant les gens, il m'a fait des reproches, des remontrances. Ensuite, maintenant, il m'a dit, je te pardonne. Donc, c'est pas bien. Ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala te fait des reproches en cachette. Seulement lui, il t'entend. Ensuite, te pardonne. Vous voyez la différence entre Allah subhanahu wa ta'ala et les êtres humains. طيب. Donc ça c'est par rapport à qui? C'est ça par rapport aux croyants. Par rapport aux croyants. Quant au kafir, fait d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa amma al-kafir, quant au kafir, wa al-munafiqun, quant au kafir et à l'hypocrite. Les kafirs et les hypocrites, fayunada bihim ala ru'us al-khalaiq. Quant au kafir et à l'hypocrite, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, va dire comme ça devant qui? Devant tous les gens qui sont en train d'entendre. Tous les gens, personne ne parle. Ils sont en train d'entendre, et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, voilà ceux qui ont menti sur leur Seigneur. Voilà ceux qui ont menti sur leur Seigneur. Ala la'natullahi ala al-zalimin. Puisse, yani là, puisse la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala les atteindre. Ala la'natullahi ala al-zalimin. Rapporté par Bukhari ou Muslim. Et dans Sahih Muslim, dans Sahih Muslim, d'après le hadith de Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Fi hadith tawil, dans un long hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fayilqa al-abda, ay, yilqa Allahu al-abda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un long hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala va rencontrer l'être humain. L'être humain. Ici, il parle de, il parle du munafiq, de l'hypocrite. Allah subhanahu wa ta'ala va rencontrer l'hypocrite. Il lui dit, Ya foul. Il lui dit, oh toi, un tel, un tel. Un tel, en arabe, on dit foulan. Foulan. Je vais écrire ça une seconde. Foulan. En arabe, on dit foulan, un tel. Allah subhanahu wa ta'ala, l'hypocrite, son nom. Je vais lui dire un tel. Non. Mais, ici dans le hadith, c'est écrit que il va lui dire seulement foul. Même pas, il va terminer le mot un tel. Regardez ce qu'il va lui dire, foul. On va lui dire oh foul. Normalement, oh foulan, un tel. Un tel. Mais il va lui dire seulement un, par exemple, un. Il ne veut pas dire un tel, un. Il termine même pas le mot foulan. Pourquoi? Tellement Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas d'importance au kafir et au munafiq. Yani, premièrement, on ne l'appelle pas par son nom alors qu'il connaît son nom, c'est lui qui l'a créé. Et deuxièmement, même ce pseudo, quelque chose comme ça, il le finit même pas, lui dit foul. Écoute, foul. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, Alam ukrimka. Oh toi, dis-moi, c'est-à-dire toi l'hypocrite, dis-moi, ne t'ai-je point, yani, rempli de faveur dans cette dunya? Ne t'ai-je point rempli de faveur? Ou c'est huit cas? N'ai-je pas fait de toi un maître? Tu étais le maître, tu commandais ceci, cela, yani, tu ordonnais, on t'obéissait. Ou c'est huit cas? Ne t'ai-je pas marié? Ou c'est huit cas? Regardez pour que vous sachiez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui marie. Que c'est Allah ta'ala qui marie. Et que le fait de marier, ça rentre dans la ni'ma. La preuve, Allah ta'ala va dire au munafiq, ou à l'hypocrite, il va lui dire, ne t'ai-je pas marié? Ça veut dire, ne t'ai-je pas donné cette ni'ma de t'avoir marié, alors que d'autres, je ne les ai pas mariés? Subhanallah, il va lui dire, ne t'ai-je pas marié? وأسخر لك الخيل والإبل et n'ai-je pas mis à ta disposition les chevaux et les chameaux de nos jours n'ai-je pas mis à ta disposition les dernières voitures les voitures yani de marque et les voitures de sport et ceci et cela ne les ai-je pas mis à ta disposition وأذلك ترأس وتربع. Et ne t'ai-je pas laissé vivre, yani dans l'aisance, ne t'ai-je pas laissé vivre dans l'aisance? Alors il dira Bella, il dira si. Alors Allah Ta'ala va lui dire, Adhanenta annaka mulaqi, est-ce que tu avais la certitude que tu allais me rencontrer? Est-ce que tu avais la conviction que tu allais me rencontrer? Il va répondre là. Il va dire non. Il peut pas mentir. Il va pas dire si. Allah Ta'ala va lui dire menteur. Je sais ce qu'il y a dans ton cœur. C'est moi qui t'ai créé avec ton cœur. Donc il n'a pas. Non. Donc il n'a. Il vaut mieux qu'il fasse pas ça. Donc il va dire la vérité. Il va lui dire non. Non, j'avais pas la certitude que j'allais te rencontrer. C'est-à-dire, je croyais pas en toi, ni en ce jour, ni en ce jour. Alors, Allah Ta'ala va lui répondre. Fa inni ansaka kama nasitani. Alors, je vais te délaisser, comme tu m'as délaissé. Ou alors, je vais te délaisser, comme tu m'as oublié. Comme tu m'as oublié. Il a dit ici. Summa yiqasani. Ensuite, il va rencontrer la deuxième personne. Et il va lui dire la même chose, lui poser les mêmes questions, et la deuxième question, la deuxième personne hypocrite et kafir va répondre avec la même réponse. Naam. Ensuite, le troisième, la même chose. Ensuite, quand il va trouver le troisième, ici il a dit le troisième, afoun, quand il va trouver le troisième, une autre personne, naam, il va lui poser les mêmes questions, la personne va dire, Ya Rab, ô Seigneur, Amen Toubek. Amen to bik, ô Seigneur, j'ai cru en toi. Wabi kitabik, j'ai cru en ton livre. Wabi rusulik, j'ai cru en tes messagers. En tes messagers. Regardez, il n'a pas dit j'ai cru en ton messager. En tes messagers. C'est ça le musulman. Le croyant, il croit en tous les messagers. Il a dit j'ai cru en tes messagers. Ensuite, écoutez ce qu'il dit. Wasallait, j'ai prié. Wasumto. Et j'ai jeûné. Et j'ai fait l'aumône. Et il commence à yani, de dire tout ce qu'il sait de bien. Tout ce qu'il a fait de bien, il commence à le citer. Tout ce qu'il a fait de bien, il commence à la citer. Alors Allah Ta'ala va lui dire, Hahuna idn. Par ici donc. Par ici donc. C'est-à-dire vers l'autre chemin, le chemin du paradis. Par ici donc. Naam. Prends cette direction-là. Naam. Ensuite, il revient au munafiq et au kafir. Il va lui dire Al-An. Maintenant, Nab'atu shahidan alik. On va envoyer notre témoin sur toi. On va envoyer notre témoin sur toi. Naam. Wa yufakkiru fi nafsihi man alladhi yashhadu alayh. Alors le munafiq, naam, et celui qui ne croyait pas, il va penser, il va dire qui c'est celui-là que Allah Ta'ala va envoyer maintenant comme témoin pour moi ou alors contre moi. Contre moi. Qui c'est le témoin qui va venir témoigner contre moi? Il va essayer de chercher, penser qui c'est celui-là, qui c'est celui-là. Peut-être c'est mon cousin, peut-être c'est mon voisin, peut-être ma femme que j'ai divorcée, peut-être c'est qui? C'est qui celui-là qui va venir témoigner contre moi? Naam. Il a dit Allah Ta'ala, fayukhtimu ala fihi. Ou bien fayuhtam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va demander que yani, en lui disant scelle, si je puis dire scellé, c'est-à-dire sa bouche, de façon à ce que il ne puisse plus l'ouvrir pour parler. Naam. Ensuite, yuqalu li fakhidi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit que on demandera à sa cuisse, wa lahmihi, à sa chair, wa idamihi, et à ses os. Enterrer, prononcer, parler, parler. Car maintenant, il ne peut plus parler. Allah subhanahu wa ta'ala lui a cousu, si je puis dire, lui a cousu sa bouche. Il ne peut pas parler. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire, yani, à quoi? À sa cuisse, à sa chair, à ses os. Il va leur dire, parler. Alors, elle va parler des choses qu'il faisait, des œuvres qu'il faisait. Wadalika. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait ceci? Car s'il n'a pas fait cela, naam, il va lui ramener par exemple des gens qui vont témoigner. Il va dire non, ya Allah. Non, ya Allah, ces gens ont menti. Ya Allah, ces gens sont contre moi. Ya Allah, ceci, cela. Mais maintenant que ce sont tes mains qui parlent, tes pieds qui parlent, naam, tes os qui parlent, tes yeux qui parlent, qui ont dit on a vu telle chose. Tes oreilles qui parlent, qui vont dire on a entendu telle chose, et tes pieds qui parlent, qui vont dire on est allé vers cet endroit, et ta main qui va dire j'ai pris telle chose dans ma main, donc maintenant la personne ne peut plus parler. Allah dit dans le Coran, ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Regardez ce verset, subhanallah al-azim, ce verset qui fait vraiment peur. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, en masse, groupe. Puis on les poussera dans la direction du feu. Alors quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Leurs yeux et leur peau, et avant cela leurs ouïes, naam, leurs oreilles aussi, et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. De ce qu'ils œuvraient. Alors ici, qu'est-ce qu'ils vont dire? Naam. Ils diront, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Les peaux vont répondre, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Pourquoi vous avez parlé? Pourquoi vous avez témoigné contre nous? Allah ghalib, c'est pas de ma faute. C'est Allah Ta'ala qui nous a fait parler. Car lui peut faire parler toutes choses. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créé la première fois. Et celui qui a créé, c'est lui qui a le droit de refaire parler. Qui il veut. Naam. Subhanallah al-Azim. Donc pour les gens qui croient que yani yawm al-qiyama, ils peuvent yani ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala ou là, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Tu as remarqué que ton corps, ce sera ton premier ennemi. C'est qui notre premier ennemi? Ton corps. Tu vois, donc, quand on dit que yani, ce qu'on a, yani, les mains, les yeux, les jambes, les parties intimes, tout ce qu'on a, c'est une amana que Allah Ta'ala t'a donnée qui ne t'appartient pas. La preuve, quand tu vas faire du haram avec l'une de ces choses, avec ta main, avec tes yeux, avec, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rencontrer contre toi, Yom al-Qiyama, et va dire, Ya Allah, quand elle va parler à Allah, Naam, voilà ce qu'il m'a ordonné de faire, voilà ce que j'ai fait. Tu voudrais cacher? C'est pas possible. Ça se renverse contre toi. Donc, il faut voir que ton corps, subhanallah al-Azim, c'est un ennemi en fait. Même ton corps, c'est un ennemi. Sauf quoi? Sauf si tu veux faire de ton corps un ami intime. Dans ce cas, yani, fais le marcher dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton corps va devenir un ami intime. Mais si tu le fais maintenant dans le haram, tu fais marcher dans le haram, le corps maintenant va t'obéir. Car c'est toi qui le commandes. Il ne peut rien faire. Mais Yawm al-Qiyamah, il va se désavouer. Il va se désavouer de toi et dire à Allah, hein, c'est lui qui m'a poussé à faire cette chose. Moi, je n'aime pas faire cette chose. Dernière des choses, faïda, le cheikh Rahimullah a dit, le cheikh a donc pour terminer, il a dit, awwal ma yuhas min a'mal salat. Il a dit la première chose, sur laquelle on va être jugé yom al-qiyama, c'est la salat. وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. Et la première chose sur laquelle on va être jugé, naam, entre les gens, pas entre nous et Allah. Entre nous et Allah, la première chose c'est la salat. Mais entre les gens, on va être jugé, c'est quoi? C'est le sang. Le sang. Est-ce que tu as fait coup ou pas? Surtout celui qui a tué. Que ce soit volontairement ou bien s'il n'a pas fait volontaire. Un mohim, il a tué quelqu'un, il a fait couler du sang. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, mazal al-muslimu fi fushatin min dinih, ma lam yusib dama. Il a dit le musulman, le croyant, est dans des, disons, dans l'étendue, dans l'espace de son dîn. Yawm al-Qiyamah, masha'Allah, c'est vaste pour lui. Il a dit tant que il n'a pas fait couler du sang. Tant que il n'a pas fait couler du sang. Donc la première des choses sur laquelle on va être jugé, on a des comptes à rendre avec Allah, c'est la salat. Avec les gens, c'est quoi? Entre les gens, c'est le sang. Ensuite, il a dit car la salat, c'est la meilleure des adorations du corps. Et le sang, c'est la chose la plus grave avec laquelle on puisse faire la chose la plus avec laquelle on peut mal. Ok, c'est un hadith que le cheikh n'a pas cité aussi. Ça rentre dans les premières choses qu'il y a Yom al-Qiyamah. Regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Al-Albani. Si la Sahih à numéro 539, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna awwal ma yuhasabu bihi l'abdo Yom al-Qiyamah. Il a dit la première des choses sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va demander des comptes Yom al-Qiyamah, an yuqala lahu, qu'on va lui dire, Alam usih laka. Jismak, Allah Ta'ala va te dire la première des choses. Ne t'ai-je pas donné une santé, hein? N'ai-je pas donné une santé à ton corps pour les gens qui sont en bonne santé et qui remercient par Allah Subhanahu wa Ta'ala? Naam. Sache que c'est la première des choses dans laquelle Allah Subhanahu wa Ta'ala va te parler. Après la salat, bien sûr. En ce qui concerne ton corps, la première des choses va te dire, ne t'ai-je pas donné une bonne santé? Pour que tu saches que il y a des millions de gens qui n'ont pas la bonne santé, qui sont malades et qui marchent avec comment ça s'appelle avec le truc la chaise roulante et comme ça. Sans parler de ceux qui ont le sida, sans parler de ceux qui ont le cancer, sans parler de ceux qui ont le diabète, ceux qui ont el-mohim, des milliers de maladies. Et toi, tu avais la bonne santé. Bon, on m'entend pas. Vous m'entendez maintenant ou là vous m'entendez pas? Peut-être la personne jamais n'a jamais remercié Allah subhanahu wa ta'ala et dire dans le sujoud, Ya Allah, aidez-moi pour que j'oublie de ni'ma. Vous m'en sentez. Parlez des autres ni'ma, bien sûr. Donc il a dit la première des choses que Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, c'est qu'il va te dire, donnez une bonne santé pour ceux. Pour ceux à qui il a donné une bonne santé. Et ensuite il va dire Wa arwika min al-ma' al-barid. Et ne t'ai-je pas, Nam, ne t'ai-je pas, disons, assouvi de l'eau froide, hein? Ne t'ai-je pas quand tu as soif, ne t'ai-je pas, yani fait boire, yani donné à boire, ne t'ai-je pas froide? Pour abreuver, ne t'ai-je pas abreuvé d'eau froide pour que tu saches que l'eau froide, c'est le mal. Va amener toutes les limons et va amener tous les jus du monde, jus de raisin, jus d'ananas, jus de pêche, jus de je ne sais quoi. Jamais ça peut égaler l'eau froide. Jamais ça ne peut égaler l'eau froide quand tu as quoi? Quand tu as vraiment soif. Naam. Allah Ta'ala va te dire, ne t'ai-je pas abreuvé d'eau froide pour que tu saches que lorsque tu bois de l'eau froide, Ta'ala pour cette grande ni'ma. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui. Voilà, Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, ce sera le bassin des messagers. Chaque messager a un bassin. On va voir le bassin du message des autres messagers. Message. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je suis mis là pour activer, pour activer les questions du site et en même temps, on va prendre aussi des mains levées. On va prendre aussi des mains levées. Mais, j'ouvre une parenthèse ici pour demander une chose. Est-ce que vous m'entendez d'abord pour que je demande la chose? Est-ce que vous m'entendez? Naam. Alhamdoulillah. Je demande à toute personne qui lève la main pour poser une question, de ne pas nous ruser et nous duper pour ne pas rentrer dans le hadith, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. C'est-à-dire que toute personne qui lève la main, ça veut dire qu'elle n'a pas posé sa question dans le site. Pourquoi? Pour que elle ne pose pas deux fois alors que il y a une personne qui n'a posé aucune question. Pourquoi nous on va prendre du site et des mains levées? Pour permettre à ceux qui ne peuvent pas poser dans le site, au moins de poser à main levée. Mais maintenant, si la personne va lever la main et poser sa question à main levée aussi dans le site, ça veut dire que vraiment cette personne, sa foi est vraiment faible et qu'elle n'aime pas pour autrui ce qu'elle aime pour elle-même. La preuve, elle pose deux questions alors que les autres ne peuvent pas poser. Barakallahu fikoum, jazakumullahu khairan. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 5-10 minutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et du son, inshallah. Alhamdulillah. Donc la première question. Salam alaikum, cher. Jazakumullahu khairan pour le cours. Qu'Allah vous fasse qu'au souhait de ceux qui rentreront au paradis sans jugement. Ma question porte sur une prime de Noël qu'on touche ici donnée par le gouvernement. Que faire de celle-ci? Est-elle permise? Tfadal, cher.
Donc je dis très vite, pour la prime de Noël, j'en ai parlé la fois passée, et j'ai dit ce qu'avait dit Cheikh Ibn Uthaymeen, ou bien un grand savant, que si on sait que yani, cet argent, ou cette prime, quand ils vont la donner, ça va leur faire de l'orgueil et dire que donc notre religion, c'est la meilleure et que les musulmans, yani, ça les affaiblit, etc. Faut pas en prendre. Mais si eux ils la donnent comme ça, yani, et je crois que c'est comme ça, Allah, s'ils la donnent comme ça, yani, sans donner d'importance à cette chose, c'est presque automatique, etc. Dans ce cas, inshallah ta'ala, c'est permis, bi'idhnillah ta'ala. Reste pour les plats. Est-ce qu'on cuisine? Est-ce qu'on fait le jour du réveillon et le jour du Christmas, ou je sais pas comment ça s'appelle, etc. Tout ce qui se mange comme chocolat, etc. Il faut l'éviter. Comme bonbon, comme. Sauf quoi? Sauf ce qui est naturel. Sauf ce qui a été créé par Allah, subhanahu wa ta'ala, comme a dit Aïcha, radiyallahu ta'ala anhu, et comme le hadith de Ali, qu'a cité Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans Qtida Sirat Mustaqim, qu'on lui a offert, voilà, les fruits, etc., c'est permis. Si pendant la Noël, ou le réveillon, je sais pas quoi, pendant une fête religieuse, on t'offre quelque chose qui a été créé par Allah, comme les fruits par exemple, mange. Mais si c'est quelque chose qu'on a préparé, il faut pas manger. Sinon, comme pour une fête musulmane, comme l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Maulid Nabawi, tu n'as pas le droit de manger, car c'est une chose qui a été préparée pour la bida, dans la bida. Alors qu'en est-il? Tu vas manger pour yani le Christ et yani ce qu'ils attestent eux. Non. Sauf si c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlal pour l'autre question, inshallah.
Donc la sœur demande, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qu'Allah vous préserve cher. Au jour du jugement, serons-nous appelés par notre nom de famille, ou alors par fils d'un tel, ou alors autrement. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Ce que je sais, c'est que quand la personne mourra, et qu'on prendra son âme, pour la faire monter vers le septième ciel, l'âme, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, lui parle. Je sais que, quand elle arrivera au premier ciel, et on frappera à la porte, les anges diront, c'est qui? C'est l'âme de qui? Et l'autre répondra, c'est l'âme de X, l'âme, et on l'appellera avec ses plus beaux noms. C'est l'âme de X, fils d'un tel, et on l'appellera par ses plus beaux noms. Maintenant, reste le jour de la résurrection. Comment qu'on va l'appeler spécialement? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais ce que je sais, Wallahu alam, c'est qu'en islam, on appelle beaucoup plus avec le nom et yani, le nom du père, fils d'un tel. Et que yani, les noms familiaux, qu'on appelle nous, par exemple, moi je m'appelle Chelebi, l'autre je sais pas comment il s'appelle, tout ça, yani, ce sont des noms qu'on s'est donnés comme ça, yani, inventé, mais sur tout ce qu'il y a dans le Wala Ta'amallah, ce qu'il y a dans, je comprends pas l'arabe, mais Yom al-Qiyamah, c'est surtout avec yani, le nom et la filiation du Père. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Naam, tfadhal.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un de vos cours, vous aviez dit qu'Allah ne punissait pas pour une mauvaise pensée, mais dans le cas où on a une très mauvaise pensée sur notre frère, sur nos frères et sœurs fillah, ou même sur quelqu'un de notre famille, est-ce qu'il ne faut pas se repentir à Allah pour cette pensée ou ce mauvais sentiment? Et est-ce que cette pensée pourra se retourner contre nous au jour du jugement? Barakallahu fikoum. Tfadha cher.
Aïkoum salam, vous m'entendez? Aïkoum salam, barakatou. Il n'y a pas une personne dans le monde, peut-être à part les messagers, qui n'ont pas de mauvaises pensées. À nous tous, ça nous arrive de penser de mauvaises choses, soit yani, pour des gens, contre des gens comme c'est le cas ici, sur des gens de la famille ou bien n'importe quel genre, ou bien de penser des choses de haram. La personne, elle pense en train de boire l'alcool ou bien de faire le haram. D'ailleurs, il n'y a pas plus grave que de penser de mauvaises choses sur Allah. Et les sahabas sont venus se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ya Rasulallah, on préfère que les montagnes tombent, plutôt que, yani, on dise ce qu'on a dans le cœur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, ça, c'est Mahd al-Iman. Justement, il leur a dit ça, c'est la foi. Quand il y a la foi comme ça, il y a le shaitan qui vient, il veut te remplir de waswas. Si tu n'as pas de foi, tu es faible, il vient pas, le shaitan, te faire des problèmes. Et quand on pense donc à des choses mauvaises sur le haram ou bien sur nos frères ou nos sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de refouler ça, de le repousser. Naam, de dire à Oudblam et yani, d'essayer de chasser cette pensée de la tête. Et si tu veux, tu dis Astaghfirullah ou quelque chose comme ça. Naam. Mais l'essentiel, c'est de ne pas parler de ça. C'est de ne pas parler de ça, comme le hadith qu'on a cité la fois passée, que Allah subhanahu wa ta'ala pardonnait à la personne tout ce qu'elle pensait, à condition qu'elle ne fasse pas ou qu'elle ne dise pas. Qu'elle ne dise pas la chose et qu'elle ne la fasse pas. Donc, quand tu as des pensées pareilles sur tes frères et des gens de la famille, etc., qui sont mauvaises, dis A'oudhou billahi minash shaitanir rajim, comme ça. A'oudhou billahi minash shaitanir rajim. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala me préserver. Et tu auras même des hasanat. Tu auras même des hasanat pour avoir quoi? Pour avoir fait des efforts pour faire le djihad. Car tu fais des djihad, tu fais. Les choses veulent venir et toi tu les chasses. Là, la pensée elle vient et toi tu la chasses. Elle vient et toi tu la chasses. Allah Ta'ala va te donner des efforts, des récompenses pour avoir yani, voulu obéir à Allah et chasser la pensée. Contrairement à celui qui ça lui plaît. D'autres. Peut-être ça lui plaît de penser à des choses pareilles, etc. Celui-là, c'est difficile pour lui. Tfadhal.
Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum pour ce cours très bénéfique. Ma question concerne le cours. Si une personne se repent de son péché et a vraiment honte de ce péché et espère que jamais Allah mentionnera ceci face à elle par honte devant le Seigneur, Allah mentionnera tout de même ce péché ou non, ou une fois le repentir fait, le péché est effacé à jamais. Wafaqakum Allah, qu'Allah vous compte parmi les 70 qui entreront au paradis, sans hisab, ainsi que tous ceux présents sur ce salon, ainsi que nos enfants. Allahumma amin. Tfadhal.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Amin et puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de sorte et englobe tous ceux qui sont présents avec nous ce soir dans ce salon. Dans ce salon. Muslim, est-ce que c'est toi qui t'es trompé en disant, puisse Allah faire de sorte que vous soyez pendant les 70 au lieu de 70 000, ou là c'est celle qui a posé la question qui s'est trompée. El-Mohim. Donc je dis, quand une personne, c'est écrit 70, maalesh. Donc on corrige, on dit 70 000. Et ensuite ça donne 4 milliards et quelques. El-Mohim. Quand une personne fait un péché et se repent, Sincèrement, ça va être quoi? Hein? Ça va être comme si elle n'avait jamais fait ce péché. D'après le hadith authentique, que le repentir annule et efface ce qui l'a précédé. Annule et efface ce qui l'a précédé. Mieux encore, si elle fait le repentir, yani, entre, après avoir fait le péché, et elle ne dépasse pas 6 heures, il sera même pas écrit pour être effacé. Il ne sera même pas écrit pour être effacé. Donc, comment se fait-il? Maintenant, yani, tu as fait le repentir, et Allah subhanahu wa ta'ala va te dire au Qiyamah, pourquoi tu as fait ceci ou cela. Si tu fais le repentir sincère, c'est comme si tu l'as pas fait, alhamdoulillah. Et c'est ça, yani, la faveur de ceux qui se repentent sincèrement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire qu'on soit deux. Qu'on soit deux. Tfadal.
Dans la question suivante, Mehdi Ibn Shafiq, nous allons vers le raid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, ma question est la suivante. Un frère demande, je suis gérant d'un snack et j'ai fait une sous-location à une personne depuis une semaine et j'ai constaté qu'il laisse fumer les clients, les cigarettes et pire de la drogue et qu'il joue aux cartes avec des paris à Audoubillah. J'ai fait avec cette personne un accord pour un mois d'essai. Est-ce que je suis dans le péché et responsable de ce qu'ils font? Et que me conseillez-vous de faire, cher? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Muslim, si j'ai bien compris. Donc, il lui a loué seulement pour un mois, n'est-ce pas? Pour un mois, tfadl.
Non, mon cher, c'est-à-dire il l'a laissé essayer un mois et plus s'ils s'entendent. Là, c'est juste une période d'essai. Tfadal, cher.
Donc, cette personne, c'est sûr que elle va pas continuer le contrat. Elle va pas continuer le contrat, c'est sûr. Puisqu'elle remarque ce qu'elle a remarqué, et que maintenant reste que elle a fait déjà un contrat pour un mois. Maintenant, si elle peut, et elle va parler avec cette personne, elle lui dit, moi j'ai bien réfléchi, je vais pas t'allonger le contrat. C'est-à-dire que après un mois et année, je vais annuler le contrat. Je vais pas le renouveler. Mais elle lui dit, est-ce que tu acceptes que dès maintenant et année, on arrête le contrat? Et je te donne ce que je dois te rendre. C'est-à-dire les jours que tu vas annuler, je dois te les rendre. S'il accepte, d'accord. S'il n'accepte pas, yani, ça le dépasse. C'est pas de sa faute. Il a déjà fait contrat, il savait pas. Mais après un mois de Mohim, il lui renouvelle pas le contrat. Bi-idhnillahi ta'ala. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Tfadlal.
Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikhana. On m'a conseillé une série de vidéos traitant du jour du jugement dernier. Avant de la regarder entièrement, je voulais savoir si on pouvait prendre de la science de ses frères, surtout qu'il s'agit de Aqida. Voici le lien, Inch'Allah. Hafizakoum Allah. Donc, cher, je vais vous envoyer le lien. Par contre, c'est Dailymotion, donc je ne sais pas si avec le débit que vous avez, si ça va s'ouvrir rapidement. Donc je vous l'envoie, Inch'Allah. Tfadal, cher.
Alhamdoulilah, Asma, passe à une autre question car comme tu as dit, c'est difficile pour que ça ouvre chez moi et ça va nous prendre beaucoup de temps car je peux pas savoir, il faut que je voie la vidéo, je vois une bonne partie d'elle. Tu comprends? Donc je laisse, inshallah ta'ala, cette réponse, cette question, je vais répondre, inshallah ta'ala, dans le prochain cours. Tfadal. Je vais garder le lien.
Ok, Inch'Allah, cher. Donc, question suivante. Salam alaikum, cher. Ma question concerne le jour du jugement dernier et l'injustice. Dans le cas où on commet une injustice et qu'on ne donne pas le haqq à la personne, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas pardon pour cette injustice et qu'on s'obstine dans cette injustice, quel sera notre jugement devant Allah le jour de la résurrection? Mais dans le cas où la personne fait le repentir sincère et qu'elle ne demande pas pardon à la personne, Madlouma. Est-ce qu'on aura quand même notre haqq? Tfadal, cher.
Donc je dis inshallah, salam alaykoum. Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Dans le cas où on commet une injustice, qu'on ne donne pas le haqq à la personne, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas pardon pour cette injustice, et qu'on s'obstine dans cette injustice, Quel sera notre jugement devant Allah pour le jour de la résurrection? Mais dans le cas où la personne fait le repentir sincère, qu'elle ne demande pas pardon à la personne, madlouma. Qu'elle ne demande pas à la personne, madlouma. Est-ce qu'on aura notre haq? Je dis, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit que, yani, ici dans ce bas monde, quand on connaît une personne à laquelle on a fait de l'injustice, ça rentre dans le repentir. Pour que le repentir soit accepté, il faudrait demander à la personne le pardon. Sauf, il a cité une exception, si par exemple, yani, la personne ne sait pas que c'est moi. Par exemple, j'ai parlé d'elle et elle n'a pas entendu que j'ai parlé d'elle. J'ai médit, mais elle ne sait pas. C'est pas la peine. Il a dit que j'aille lui dire car peut-être elle va s'énerver plus, etc. Et yani, ça va empirer. Mais si jamais j'ai fait du mal à quelqu'un ou je lui ai pris une chose, je dois la lui rendre et yani, lui demander pardon. Maintenant, si dans le cas où j'ai pas demandé pardon, ou que j'ai pas voulu, ou non, ça, Allah Ta'ala Yom Qiyamah demandera à la personne si elle veut excuser ou elle ne veut pas. Allah Ta'ala demandera à la personne Yom Qiyamah, est-ce que tu veux lui pardonner ou tu ne veux pas? Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, si la personne ne veut pas pardonner, comme vous savez, elle demandera à ce qu'elle prenne quelques hasanat ou bien à ce qu'elle donne, yani, de mauvaises œuvres. Elle te donne de mauvaises œuvres en contrepartie de ce que tu as fait si tu n'as pas de hasanat à lui donner. Mais le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit quelque chose qui m'a plu, a dit dans le cas où la personne a failli le repentir et que Allah Ta'ala a demandé à la personne d'excuser, elle n'a pas voulu, il a dit ya, mais il n'a pas cité d'alil. Il a dit ya quelque chose, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va proposer à la personne madlouma, va lui proposer comme disant une offre. Il va lui dire, et si je te donnais telle et telle chose, tel et tel palais, telle et telle montagne d'or, etc., est-ce que tu pardonnes ou tu pardonnes pas? Il a dit comme ça, car Allah subhanahu wa ta'ala défend les croyants et défend ceux qui ont fait le repentir, bi'idhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alam, tfaddal.
Question suivante, Oum Abdullah Alim. Salam alaikum. Je suis dans une situation difficile. Reconverti depuis 3 ans, alhamdoulilah, et marié depuis plus d'un an. Mon mari faisait la prière au début de notre union et depuis plus de 8 mois a arrêté la salate. Il ne cherche pas de travail, ne veut pas d'enfant pour le moment et fait d'autres péchés. De plus, nous vivons chez ses parents et ils vont le mettre à la porte dans 2 jours. Cher, que dois-je faire? Encore patienter, même seul chez mes beaux-parents? Sachez qu'étant reconverti, mes parents ne veulent plus me recevoir. Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
En fait, quand le mari ne fait pas la prière, c'est vraiment le plus grand péché après après le shirk. D'ailleurs, le hadith a dit que c'était du kofr. Quand le mari ou quand quelqu'un ne fait pas la prière, c'est vraiment un grand, grand péché. D'après Cheikh Ibn Uthaymeen, si on va prendre l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, si d'après lui on va prendre son avis, rester marié avec quelqu'un qui ne prie pas, c'est rentrer dans la zina. Il dit chaque rapport, ça devient zina. Car il a dit, il est devenu kafir. Et s'il meurt, on ne lave pas, on ne l'enterre pas, on ceci, on cela, moi, on ne prie pas sur lui. Si on l'enterre, il a dit, on le jette comme ça dans un trou, c'est tout. El-Mohim. Maintenant, donc, la sœur devrait quoi? Faire des rappels au mari, lui dire que te donne, yani, par exemple, une semaine ou les 10 jours ou le maximum, ou bien tu commences la prière, ou bien yani, que chacun, inshallah ta'ala, prenne son chemin et divorce-moi, ou bien on fait le khula et ça s'arrête là. Car yani, ne pas prier, quelqu'un qui ne prie pas, ça veut dire il peut faire tous les autres péchés. Car, vous comprenez, ne pas prier, c'est déjà le plus grand péché. Qu'est-ce qui yani, le retient des autres choses? Celui qui ne prie pas, pourquoi il ne boit pas de l'alcool? Pourquoi il sort pas avec les femmes? Pourquoi il fume pas la drogue? Khlas, il prie pas, il a coupé le lien avec lui et Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai un ami qui a marié sa fille avec quelqu'un du quartier, avec Khamis et Barbe. Et ce frère qui a voulu Yannis se marier avec cette sœur a tellement insisté, 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 insisté que son père la lui a donné. Un mohim. Quelque temps après le mariage, il a enlevé le khamis. Ensuite, il a rasé la barbe. Ensuite, il a commencé à piquer ses cheveux. Piquer ses cheveux, c'est-à-dire, vous voyez la mode maintenant. Il fait de ses cheveux comme un hérisson. Un hérisson comme ça, c'est ses cheveux qui montent vers le ciel. Exactement, confond les kofars, les drogués, etc. Vous connaissez ça. Taïb, est-ce que vous êtes avec moi ou là je suis. Ou là je suis pas connecté? Ah, connecté, alhamdoulilah. Donc vous voyez, hein, il était avec la barbe, Khamis. Et vraiment, il insistait pour la soeur. Maintenant, quand il l'a eu, il a fait ce qu'il voulait. Ah, là, ça l'intéresse plus. Déjà, il a enlevé la barbe, Khamis et la mode. Il a commencé à fréquenter des filles. Ensuite, son père lui a dit, écoute, je te donne quelques temps. Ou bien, Yanni, tu reviens vers le haq, ou bien je t'enlève la fille. Et l'autre, il croyait qu'il plaisantait. Il n'a pas voulu revenir vers le haq. Il lui a pris sa fille. Il lui a pris sa fille, lui a forcé à faire le khula, lui a rendu la dot. Et maintenant, sa fille, la fille du frère, est déjà mariée avec un deuxième. Et mashallah, un frère, un vrai, pas un faux, un vrai. Donc je dis, quand quelqu'un arrête la salat, khlas, il ne contient plus de bien et il n'y a aucun bien en lui. Si c'est quelqu'un qui était mashallah, etc., et qui, juste a glissé, un petit glissement comme ça, et ça fait quelque temps seulement qu'il prie pas, mais c'est quelqu'un de bien, mashallah, mais allez, on va patienter avec lui, pour que, yani, il revienne, etc. Mais si c'est quelqu'un qui est khlas, qui a tourné le dos, là, ça lui dit plus rien à la salade. C'est les filles, la drogue, la boisson, ceci, cela, le tiercé, le. Celui-là, il vaut mieux s'en éloigner. C'est quelqu'un, yani, qui n'a pas de bien, qui ne comporte aucun bien. Faut pas beaucoup perdre son temps avec lui. Là. Donc, donne-lui un ultimatum, mais vois. S'il est sincère, il va vite revenir regretter. Et si c'est quelqu'un qui suit les patients, khlas. Donc, il vaut mieux s'éloigner de lui, inshallah ta'ala. Tfadal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. Une sœur demande, j'aimerais savoir, les hommes pieux auront des houris au paradis. Et qu'en est-il des femmes? Quel est le statut des houris par rapport aux femmes que les hommes pieux auront, eux, dans la dunya? Barakallahu fikoum. Tfada cher.
Alaykoum salam, je ne sais pas pourquoi les femmes yani, sont jalouses de nous à ce point, subhanallah. Ici, pourquoi vous avez quatre femmes au paradis, pourquoi vous avez des houris et nous on n'en a pas? Là, moi je dis, la femme a tout à fait raison de demander son haqq. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset que ceux qui seront au paradis auront tout ce qu'ils désireront, comme ça il a dit. Il a dit, tout ce que tu désires, tu l'auras. Se basant sur ce verset, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, c'est le seul auquel j'ai lu cette chose. J'ai pas lu ça chez les autres. Mais je vous dis ce qu'il a dit. Se basant sur ce verset, que on a tout ce qu'on veut dans le paradis, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit que la femme aussi aura des hommes si elle désire. Aura des hommes si elle désire du paradis, n'am, et des hommes, yani des houris. Spécialement, yani qui ont été créés là-bas, créés là-bas. Naam. Donc, ce n'est pas étonnant que, puisque Allah Ta'ala a dit que tu auras tout ce que tu désires, donc c'est pas étonnant que si tu désires un homme, que Allah Ta'ala te donne un homme de là-bas. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlan.
Question suivante de cours. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah, j'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir, dans les 10 annulations de l'islam, il y a un point que j'aimerais que vous expliquiez. C'est le fait de se moquer d'un point de la religion. Pouvez-vous nous donner des exemples, barakallahu fikoum? Par exemple, si une personne prie longuement le dhuhr et que d'autres personnes fassent des commentaires en plaisantant, on dirait qu'elle fait le talawir. Est-ce que cela rentre dans ce point? Et ne nous oubliez pas dans vos doigts, jazakumullah khairan. Tfadal cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. En fait, faire des commentaires, cela dépend de, yani de quelle façon on fait le commentaire. Quand je vois une personne faire le dhuhr et qu'elle le fait longuement, longuement, et que je dis subhanallah, elle se croit dans le tarawih, non, je le dis dans ce sens que, yani, elle a beaucoup tardé. Ça ne rentre pas. Dans quoi? Ça ne rentre pas dans le fait de se moquer de la religion. Un homme, vous connaissez le hadith, je l'ai cité plusieurs fois. Mais allez, je rappelle, le rappel est profite aux croyants. Un homme a frappé sa femme parce qu'elle prie longuement. Et le prophète ne lui a pas dit, ça rentre dans l'annulation. Mieux encore, il lui a donné raison. Il lui a dit, Naam, tu as raison, il faut pas qu'elle prie comme ça longuement. Il a dit à la femme, une sourate, ça suffit, ne lis pas deux sourates. Al-Muhim. Donc, si je dis, Subhanallah, c'est comme s'il prie le Tarawih, ça veut dire qu'il prie longuement, ça rentre pas dans l'annulation, ni dans les péchés. Ça veut dire seulement que j'ai dit qu'il priait longuement. Mais se moquer que de la religion, c'est se moquer, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit ça, istihza. Yani, je dis par exemple, c'est quoi ce voile-là? On dirait, comme on disait autrefois chez nous, quand ils voient une femme voilée avec le djilbab, ils disent c'est Zorro. Est-ce que vous connaissez Zorro? Vous connaissez Zorro? C'est quelqu'un qui joue dans les. Connaissez, non. On ne voit de lui que ses yeux. Tout caché derrière sa cape, on ne voit. Mexicain, Allahu alam. On ne voit de lui que les yeux, il est caché derrière sa cape. Donc on dit, ou bien on dit, c'est une tente, la tente. La tente, quand on va au camping, on dort dans la tente, en parlant de la femme. Regardez celle-là, elle est la tente, on voit rien d'elle. Chauve-souris. Non, ça dépend d'après les pays. Là, on se moque de quelque chose de la religion. Celui qui dit comme une chose pareille, il est devenu kafir. Il est devenu kafir. En parlant de la barbe, on dit par exemple, c'est la barbe de donc on appelle ça du bouc, ou bien la barbe de la chèvre. C'est la chèvre qui a une barbe comme ça, ou bien un bouc. Non, tout ça fait quoi? Ça fait annuler l'islam, a'oudou billah. Ça fait annuler l'islam, a'oudou billah. En se moquant de ça, on se moque de l'islam. C'est comme si on voulait dire, c'est quoi cet islam qui demande à la femme d'être comme une chauve-souris? C'est quoi cet islam qui demande à l'homme d'avoir une barbe pour ressembler à une chèvre? Et comme ça. Ça, c'est du kofr, a'oudou billah. Mais si tu parles d'une personne que yani, elle prie beaucoup ou ceci ou cela, non. Tu es en train de parler d'autre chose. Tu es en train de dire que yani, elle rallonge beaucoup sa salat, ou bien qu'elle prie vite, ou bien. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Inch'Allah ta'ala que on vous oublierait pas. On ne va pas vous oublier dans les doigts, comme on vous demande à vous de ne pas nous oublier dans vos doigts, inshallah ta'ala. Tfadlan.
Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous accorde à tous le Firdaous. 70 000 personnes entreront au paradis, avec chacun 70 000 autres. Pouvez-vous répéter qui ils sont et expliquer pourquoi? Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
Masha'Allah pour la question, naam. Donc, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les 70 000 qui vont rentrer, donc, ce sont ceux qui ne s'exorcisent pas, dans le sens où ne demandent pas la ruqya. Et quand on dit ruqya, c'est aussi ne vont pas chez le médecin. Mais dans quel sens? Les savants ont dit, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen plusieurs fois, il a dit dans le sens où il ne demande pas ruqya sans qu'il y ait raison. Car autrefois, il y a des gens qui, et même de nos jours, qui, il n'a rien à faire, il va dire, tant je vais faire ruqya. Vous avez compris? Il n'a rien à faire. Celui-là, il a dit, c'est un manque de tawakkul. Manque de tawakkul. Naam. Sans rien, sans raison, attends, je vais faire ruqya. Non. Sans rien, sans raison, attends, je vais chez le médecin. On va chez le médecin, on fait ruqya quand il y a nécessité. Il y a besoin. Il y a besoin. La preuve, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tadawu. Il a dit, soignez-vous. Il a dit dans un hadith authentique, il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède. Le sache qu'il sache et l'ignore qu'il ignore. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède. Comme ça a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pour la première des choses, pour la ruqya. Ensuite il a dit, ce sont ceux qui, il a dit, alladhina la yastalqun wa la yaktawun. Il a dit, ce sont ceux qui, quand ils sont malades, ne se soignent pas en se brûlant avec des pointes de fer. Il a dit pointes de fer, c'est-à-dire qu'autrefois, certains gens, quand ils sont malades, ils vont chez d'autres gens. Qu'est-ce qu'ils leur font pour les soigner? Ils les brûlent. Ils les brûlent comme ça avec quelque chose en fer. Mais le problème, c'est pas dans la barre de fer. C'est le problème, c'est dans la brûlure. Pourquoi il a dit pointe de fer? Car il ne va pas te brûler avec de la paille. La paille elle-même, elle se brûle. Ni avec le bois. Le bois, il se brûle, il se consomme. Mais une pointe de fer. Non, il a dit, il faut pas qu'il soit de ce genre. Et pourtant, il y a un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit que, en ce sens, il dit, les trois meilleurs, si je puis dire, guérisons, ou les médicaments, ou les remèdes, ce sont quoi? Il a dit, boire une gorgée de miel, ou bien faire la hijama, un trait de hijama, ou bien il a dit, se brûler avec une pointe de fer. Subhanallah l'alim. Alors que ce hadith a dit, il ne faut pas faire ces choses-là. Donc, pour joindre entre les hadiths, les savants ont dit, le hadith ici, quand il a interdit ça, il parle de ceux qui aussi, font cette chose avant de tomber malade. Naam. Par prévention, il va quoi? Il va se faire brûler avec une pointe de fer dans un endroit comme ça. Il va dire comme ça, je ne serai pas malade, par exemple, de cet endroit-là. Alors que, maintenant, le hadith a dit que se brûler avec, se faire brûler pour se soigner, il a dit, c'est l'une des meilleures guérisons. Mais quand est-ce que, quand c'est le dernier remède? Ça veut dire que quand tu as une plaie, par exemple, tu vas pas directement brûler la plaie. Mais tu vas prendre des antibiotiques. Et avant cela, tu vas faire des douas. Et avant cela, tu vas peut-être la masser avec de l'huile. De l'huile sur laquelle tu as lu du Coran. Ça ne donne rien. Ensuite, les antibiotiques, le médecin, ça ne donne rien, ça empire. Ensuite, il te reste la solution de la brûler avec quelqu'un qui sait comment brûler et qui ne brûle que la plaie pour que ça ne se propage pas et que ça empire. Non. Donc, deuxièmement, il ne se brûle pas, c'est-à-dire sans raison et sans contrainte ni besoin. Et troisième chose, il a dit, et ceux qui ne croient pas aux mauvais augures, ceux qui ne sont pas superstitieux, quand ils voient une araignée dans la maison, ils vont dire un malheur va m'arriver. Ou bien ils voient un chat noir, ils vont dire un malheur va m'arriver. Ou bien ils rencontrent une personne, ils vont dire Subhanallah, à chaque fois que je rencontre cette personne, il y a quelque chose de mal qui va m'arriver. Tout ça, c'est de mauvais augure. Ça rentre même dans le shirk. Et ça ne te permet pas d'être parmi les 70 000 qui vont rentrer au paradis. Quand cette chose te vient dans le cœur, et le hadith a dit qu'il n'y a pas une personne qui ne lui vient pas dans le cœur. Il a dit, quand ça te vient dans le cœur, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu chasses cette pensée de ton cœur et le shaitan. Naam. Des fois, si tu vois un chat noir ou là, je ne sais pas quoi, et tu dis, à chaque fois que je vois cette chose, il va m'arriver une chose. Yani, dis a'oudou billahi minash shaitanir rajim. Et dis que, naam, rien ne peut m'arriver, même yani, si je vois 1000 chats noirs par jour, rien ne peut m'arriver, sauf ce que Allah Ta'ala a décrété. Naam. Dis-toi, c'est pas le chat noir qui va être là la source de mon malheur. Et comme ça. Donc tu ne dois pas avoir de superstition. Il y a même les qui ont la superstition, même par exemple dans les yeux. Des fois son œil gauche, l'œil gauche commence à quoi? À disons à bouger. Tac 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 tac. Comme ça il commence, c'est pas comment dire, à trembler. Il va dire donc je vais pleurer. Donc un malheur va m'arriver et je vais pleurer. Et le contraire, il va dire si c'est l'œil droit qui va trembler, donc je vais voir quelque chose de bien, masha'Allah. Je vais voir quelque chose de bien. Et s'il va avoir des démangeaisons, s'il va avoir des démangeaisons dans la main gauche, hein, il va gratter la main gauche, et aller au creux de la main gauche, il va dire c'est de l'argent qui va sortir, je vais faire des dépenses. Et si c'est dans la main droite, il va dire je vais faire des entrées. C'est l'argent qui va rentrer. Masha'Allah, il va pas arrêter de gratter. Comme ça, il va dire je vais faire rentrer des millions aujourd'hui. Non. Tout ça rentre dans la superstition et le shirk. Si vous voyez un roux, vous grattez. Je ne sais pas. Le roux, je ne sais pas. C'est d'après les pays, d'après les sociétés. Enfin, chaque société a sa façon et a envie de faire des superstitions. Non. Donc, qu'est-ce qui est le rouge? Qu'est-ce qu'il reste la quatrième des choses? La quatrième des choses. Il a dit, et il a dit, et il faudrait être des gens qui croient, qui ne croient pas en ces choses, mais plutôt, yani, font confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadhal.
Madame Cher, vous n'avez plus le micro, je pense que la réponse était finie. Alors, Abou Wassim 2009. Alhamdoulilah. Abou Wassim 2009. Salam alaikum, cher Barakallahu fikoum. J'ai entendu parler du Cher Adam à Oran. Pouvez-vous me dire s'il est sur le chemin des salafs? On doit toujours vérifier auprès de qui on prend le ilm. Je voudrais aussi votre avis sur le merkez des langues arabes qui se trouve à Draria Salman El-Farisi, le frère directeur et qui enseigne aussi. Peut-on étudier avec lui? Très bien, cher.
Pour le cheikh Adam d'Oran, je le connais pas. Il faudrait demander, inchallah ta'ala, des frères qui sont à Oran. Ces frères qui sont à Oran, il faut se renseigner auprès d'eux. Mais de toute façon, je te donnerai une réponse, inchallah ta'ala, dans le prochain cours. Quant au merkez de Draria, je ne le connais pas aussi. Je vais beaucoup à Draria, mais je ne connais pas ce merkez, ni j'en ai entendu parler de lui. Mais inchallah ta'ala, la prochaine fois, je te ramènerai, inchallah ta'ala, des renseignements pour ce merkez, inchallah ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum, cher. Est-ce que l'on peut dire qu'Allah fasse miséricorde à un animal mort? Car un frère m'a dit cela, je n'ai pas su quoi répondre. Tradacher.
Si l'animal est vivant, si l'animal est vivant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sûrement, sûrement englobé sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la rahma, c'est sûr. Yani en le laissant vivre, en le laissant manger, en le laissant s'accoupler, en le laissant respirer, tout ça rentre dans la rahma d'Allah, la grande rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe même les kuffars, et les animaux et les bestiaux, et tout ce qui est créé. Quant à un animal mort, on dit de lui, rahimahullah, je n'ai jamais entendu ça, ni trouvé ça dans un texte, ni verset, ni hadith. Et s'il y a quelqu'un qui connaît un hadith, par exemple, où il y a que le prophète a dit, Allah yarham, tel ou tel animal, qu'il nous en fasse part, Car bien sûr, on ignore beaucoup de choses. Mais moi, personnellement, jusqu'à présent, je ne peux pas dire sur un animal, Allah yarhamou, car je n'ai jamais entendu ou lu ça. Et je dis, si quelqu'un connaît un verset en hadith où il a été dit ça, est authentique, qu'il nous le ramène, inshallah ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, yani lui donnera des récompenses pour propager la science, bi'idhnillah ta'ala. Tfadhal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne le jour du jugement. Est-ce que tous les musulmans verront Allah lorsqu'ils seront jugés? Est-ce que les mécréants le verront? Barakallahu fikoum, je demande à Allah que toute la science que vous nous transmettez nous soit utile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadal cheikh.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, je dis wa alaikum salam wa barakatuh. Est-ce que tous les musulmans verront Allah lorsqu'ils seront jugés? Est-ce que les mécréants le verront? Barakallahu fikoum. Amin ya rabbal Tous les musulmans verront Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les musulmans verront Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un musulman qui ne va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout lorsqu'ils vont rentrer au paradis. Et c'est la plus grande ni'ma qu'il y aura yawm al-qiyama. C'est pour ça que les savants disent que si jamais Allah Ta'ala faisait rentrer quelqu'un au paradis en lui faisant la condition qu'il ne le verrait pas, il ne se sentirait pas alors dans le paradis. Car tout ce qu'il y a de plus beau dans le paradis, c'est la vision d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, contrairement à cela, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'un des plus gros maux et l'un des plus gros châtiments et l'un des plus gros chagrins pour le kafir, c'est aussi de ne pas voir yani son créateur, de ne pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sunna al-Jama'a on dit que lorsque ça sera le jour de la résurrection et le jour du jugement, que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala et que les mécréants ne le verront pas. Et que reste qui? Reste les hypocrites qui sont au milieu. Ils seront avec les croyants. Ils resteront avec les croyants. Car apparemment, ils étaient avec eux dans la dunya, dans les mosquées, etc. C'est pour cela que les munafiqun vont voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, mais ne le verront pas une vision de délice. Naam. Mais une vision de châtiment. Comme ça disent Al-Sunna al-Jama'a. Non. Donc, contrairement aux kofars qui ne le verront pas du tout. Car le munafiq, l'hypocrite, il est quoi? Il a le statut de musulman dans cette dunya. Mais dans l'au-delà, il est plus grave que le kafir. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Innal munafiqina fi d-darkil asfal min an-nar. Il a dit que les hypocrites seront dans le plus bas de Jahannam. C'est-à-dire que le kafir est mieux que l'hypocrite, en ce sens. Car le kafir, au moins, il t'a dit, je suis kafir. Mais l'autre, il t'a rusé. Il a voulu te tromper. Il a montré l'islam, alors que dans le cœur, il avait le coffre. Il avait le coffre. C'est pour cela que c'est impossible que le munafiq, l'hypocrite voit Allah subhanahu wa ta'ala comme le voit le croyant. Mais il le verra d'une autre façon. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala viendra, non dans sa vraie image, comme dans le hadith authentique. Fayyatillah fi ghayri suratihi allati ya'rifunaha. Quant à la vraie image, c'est lorsqu'il se montrera dans le paradis. Et ce sera spécialement pour les croyants. Ce sera spécialement pour les croyants. والله تعالى أعلم تفضل
Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum, cher. A-t-on le droit de consommer des produits alors que leur publicité contient du haram? Je vous donne un exemple. Dans certaines publicités, comme pour le parfum ou des yaourts, il y a des femmes nues ou des allusions à la zina. Dans ces pubs, les femmes ne sont pas voilées. Il y a de la musique. Est-ce que le musulman a le droit d'acheter ce parfum ou ces yaourts? Et est-ce que cela n'est pas les aider dans le mal? Il y a même un fromage qui a un nom de shirk, caprice des dieux. Allah Musta'an. Barakallahu fikoum, cher. Il y a même caprice des anges. Tfadal, cher.
Muslim, ce que j'ai pas compris, c'est publicité, ces mauvaises publicités qu'il y a, des femmes nues ou je ne sais pas quoi. Nam, est-ce que c'est sur le produit lui-même ou bien non? C'est dans la rue qu'il y a des publicités sur le fromage, etc. Alors que le fromage en lui-même ne comprend pas cette chose quand on va l'acheter. Tfadal, j'attends ta réponse.
Non, généralement, l'alim, le produit en lui-même, ne contient pas ces choses. Mis à part quelques parfums. J'ai déjà vu quelques parfums qui avaient la forme d'un corps d'une femme ou du corps d'un homme. Tfadachir. Un corps nu, bien sûr. Tfadachir.
Non, c'est pour cela que les gens, ou plutôt les savants, font la différence dans le haram, en ce qui est haram en lui-même, fidati et fi'aini, et en ce qui est haram, ce qu'on appelle bijiha munfaka, ce qui est haram par yani, par rapprochement, et par ce qui l'entoure, et par ce qui l'entoure. Je veux dire par là, le parfum, si lui-même, il est halal, et qu'il ne contient pas, par exemple, une dose d'alcool qui dépasse 50%, comme dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, et que le yaourt lui-même ne comprend rien de haram en lui-même, c'est-à-dire que ses composants sont halal. Il a été fabriqué avec le lait, avec le beurre, avec le, je ne sais pas ce qu'on lui a rajouté. Dans ce cas, il ne peut pas devenir haram. Ce qui est haram, c'est la publicité qu'on a fait autour de lui et qu'on a fait pour lui. L'âme. Mais si, quand je vais l'acheter lui-même, la boîte contient des choses obscènes et contient des femmes nues, etc., le musulman, dans ce cas, il doit s'en éloigner. Il doit s'en éloigner, l'âme, pour ne pas encourager les autres. L'âme, et pour ne pas me faire tomber dans les choubouhettes. Et les gens qui vont voir, ils vont dire, celui-là, subhanallah l'adhim, il achète des choses pareilles, et il n'est pas pieux, il n'a pas peur d'Allah, il n'est pas ceci, et ils vont te donner des étiquettes. Mais je reviens jeudi. Mais si les pubs sont dehors, dans la rue, etc., et que ça n'a rien à voir avec le produit lui-même que je vais acheter, qui sont emballés normalement, emballés, yani, dans des choses normales, où il n'y a ni nudité, ni rien, dans ce cas, yani, c'est séparé, ça n'a rien à voir, bi-idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam, tfadlan.
Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve sur le haq et qu'il ta'ala vous compte parmi les habitants de son vaste paradis ainsi que les admins. Amin. Une sœur demande, la question concerne le rattrapage du jeûne pendant le ramadan. Ah, donc j'attends la suite, inshallah. Lors du ramadan, j'étais enceinte et avais de gros problèmes pour le jeûne. Au jour d'aujourd'hui, j'allaite mon enfant et je me sens constamment faible. J'ai essayé de jeûner un jour. Le problème, c'est que je me sentais très très faible et avais de gros problèmes pour l'allaitement de mon enfant. Il me reste de nombreux jours à rattraper et je souhaiterais savoir si dans mon état, je pouvais nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné afin d'expier le rattrapage de ces jours. Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
Walaikum salam, là j'ai pas entendu le début de la question, mais je dis, si la femme qui a, si y a la femme qui a des dettes de Ramadan, si ces dettes sont dues à cause de l'allaitement pendant le Ramadan, et que cet allaitement ou grossesse, et que cette grossesse ou allaitement lui a causé, ou bien a eu peur qu'elle lui cause des problèmes, ou bien pour elle, ou bien pour son bébé. Et que dans ce cas, elle a mangé. Dans ce cas, je lui dis qu'elle peut prendre de la fatwa d'Abdullah ibn Abbas et de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit que dans ce cas, elle n'a pas de jour à rattraper, mais qu'elle doit nourrir pour chaque jour un pauvre. Donc, c'est dans le cas où une femme mange le ramadan à cause de la grossesse, car elle a des problèmes, ça lui fait mal, etc. Ou bien, yani, ça lui fait du mal à elle ou bien à son bébé, ou bien à cause de l'allaitement. dans ce cas, inshallah ta'ala, elle peut faire nourrir au lieu de rattraper, inshallah ta'ala. Tfadlal.
Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah. Quelle est la récompense d'Allah pour la lecture du Coran et pour une personne qui commence à apprendre à lire l'arabe et donc le lit avec difficulté et parfois des fautes? Et concernant la question sur les pubs, cher, vous n'avez pas répondu sur le nom du fromage qui s'appelle Caprice des dieux, Caprice des anges. Qu'en est-il de ce fromage? Tfadal, cher.
Afouane, qu'est-ce que tu as dit par rapport à... Avant la question du caprice des dieux. Qu'est-ce que tu as dit, Aoud Tchouf, Inch'Allah?
Ah, monsieur, vous avez oublié, je vous ai envoyé la question sur le PV. Je vous envoie la question sur le PV. Quelle est la récompense d'Allah pour la lecture du Coran et pour une personne qui commence à apprendre à lire l'arabe et donc le lit avec difficulté et parfois des fautes? Tfadal, cher.
Naam, pour la lecture de la récompense d'Allah pour la lecture du Coran, c'est la récompense qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que pour chaque lettre, on avait quoi? On avait une hasana. Et que la hasana se divise en 10. De façon à ce que lorsque tu dis Alif Lam Mim, avant de commencer le Baqara ou bien le Sajda, tu dis Alif Lam Mim, tu as au moins 30 récompenses. Et si tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu as 180 récompenses. Car ça contient 18 lettres et 18 par 10, ça donne 180 au minimum. Et Allah Ta'ala multiplie d'après quoi? D'après ce qu'il y a dans le cœur, comme sincérité, comme amour d'Allah et amour du Coran et comme ça. Et deuxièmement, on a aussi des récompenses. Pourquoi? Quand on médite, ça c'est lire seulement. Ensuite, il y a méditer. Je médite ce qu'il y a dans le Coran. Ensuite, j'applique. J'ai des récompenses pour avoir appliqué. Ensuite, j'explique aux gens et je propage. Ensuite, j'ai des récompenses pour avoir expliqué aux gens ce que j'ai appris. Vous comprenez? Et ensuite, quand tu lis le Coran, c'est comme dans le hadith authentique, Hablullah subhanahu wa ta'ala. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, si je puis dire, au bout du fil, du câble, il y a toi. Car c'est le toi, c'est-à-dire avec le Coran, de l'autre côté. Donc, quand tu lis le Coran, tu tiens au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça te permet de t'accrocher davantage. C'est pour ça que normalement, on ne devait pas laisser passer un jour sans lire quelque chose du Coran. On ne devait pas laisser passer un jour sans lire quelque chose du Coran. Même celle qui a les menstrues, maintenant, il y a quoi? Il y a le téléphone, il y a le portable, il y a l'ordinateur, elle n'a plus, Inch'Allah ta'ala, d'excuses comme autrefois. Je dis, que je voulais dire aussi, Naam, et le hadith, qu'a-t-il dit? Il a dit, celui qui lit le Coran, et le prononce bien, il le lit parfaitement. Il a dit, celui-là, il est avec le Kiram al-Barara. Il est avec les anges, Naam, qui, vous savez comment qu'ils le lisent. Il a dit, quant à celui qui le lit difficilement, avec difficulté, et se trompe, il a dit, celui-là, il a, si je me trompe pas, si j'oublie bien, si j'ai pas oublié le hadith, il a dit, il a deux fois les récompenses, quelque chose comme ça, pour avoir lu et pour avoir fait des efforts. Car il se trompe et il recommence, il se trompe et il recommence. Vous voyez qu'il fait des efforts miskin pour le lire. Allah Ta'ala ne laisse pas les efforts aller comme ça vainement. Mais il donne des récompenses aussi pour les difficultés. Pour les difficultés, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Reste pour le fromage, le caprice des dieux Adam. Naam. Il dit c'est un fromage qui s'appelle comme ça. Je n'ai pas de réponse, inshallah ta'ala, jusqu'au prochain cours. Je n'ai pas de réponse, inshallah ta'ala, jusqu'au prochain cours. Je note et le prochain cours, inshallah ta'ala, je réponds. Donne-moi, inshallah ta'ala, musulman, la dernière question, bi'idhnillahi ta'ala.
Fériel 31 000, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum. J'ai entendu dire qu'à chaque péché que nous faisons, une grâce de Dieu nous est enlevée. Est-ce vrai? Auriez-vous le dalil? Tfadal, cher. Je dirais une grâce d'Allah plutôt. Tfadal, cher.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جودي شوف، à chaque fois qu'on fait un péché, à chaque fois qu'on fait un péché, surtout si c'est un grand, a'oudou billah, qu'est-ce qui se passe? Comme disent Al Sunna ou Jama'a, il y a une partie de ton iman, une partie de ta foi, n'am, qui, si je puis dire, elle s'en va. C'est comme a dit le prophète sallam dans un hadith authentique. Il a dit, à chaque fois que tu fais un péché, il y a un point noir qui se met, disons, sur ton cœur. Jusqu'à ce que, si la personne continue comme ça, elle va noircir son cœur complètement. Le hadith est authentique. Et à chaque fois que tu fais une obéissance, il y a un point noir, un point blanc qui va quoi? Qui va se mettre dans ton cœur, alhamdoulilah, et yani, effacer le point noir. Donc, à chaque fois qu'une personne fait un péché, elle devrait vite se repentir et aller faire quoi? Et aller faire une bonne œuvre. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Wa tbi' as-sayyi'at al-hasana. Naam. Inna as-sayyi'at, inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Allah Ta'ala a dit, et fait suivre le péché par une bonne œuvre. Il a dit, les bonnes œuvres annulent les péchés. Masha'Allah. Donc, quand quelqu'un fait un péché, il n'a pas le droit de dire, donc c'est trop tard, là, yani, je vais couler. On va lui dire non. Repens-toi et va faire quelque chose de bien. Va faire une aumône. Va faire une salate. Va dire une belle parole à tes parents. Va faire la piété familiale. Et comme ça, Allah Ta'ala va quoi? Va, alhamdoulillah, t'effacer le péché et te le faire remplacer par quoi? Par, inshallah ta'ala, une bonne récompense. Pour une bonne récompense, inshallah ta'ala. Tayyib. Il est déjà 23 heures passées. On commence à se fatiguer, inshallah ta'ala. On va, inshallah ta'ala, continuer le prochain cours, bi'idhnillah ta'ala. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde. Donc, inshallah ta'ala. On va continuer le prochain cours, dans le prochain cours, inshallah ta'ala. Subhanak lahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.